Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. Peut-être que vous ne l'avez pas encore senti, mais ces prochaines semaines auront une odeur de budget gouvernemental. Donc, on reçoit d'ailleurs un rédacteur qui a du nez pour repérer le néolibéral, Jacques Benoît, de la Coalition Solidarité Santé. Donc, on va en discuter avec lui. Émilie Bouchard-Labonté vient nous énergiser de sa chronique sport paralympique et on reçoit, en ouverture de cette émission, Marie Turcotte, directrice générale d'Execo, qui porte avec plusieurs personnes qui ont vécu les coupes en soutien à domicile une campagne de dénonciation. En effet, Execo profite du dépôt prochain du budget provincial pour réclamer un financement adéquat de ses services de soutien à domicile. Dans un instant, sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Alors que le docteur Gaétan Barrette ne cesse de rappeler que tout va bien en santé, les personnes en situation de handicap ne cessent d'être coupées dans leurs services ou encore sont dirigées vers des services tarifés, donc vous avez compris, payants. Donc pour en discuter, la directrice générale de l'organisme Execo, Marie Turcotte, rappelons-le, depuis 2014, Marie Turcotte, vous faites des constats difficiles sur le soutien à domicile. Bonjour, Marie Turcotte.
Bonjour, Monsieur Racette. Vous allez bien?
Oui, j'étais déjà en train de vous poser la première question, comme c'est la question de l'heure. Alors, dites-nous, là, depuis 2014, qu'est-ce qui se passe en soutien à domicile?
Mais nous, en 2011, Execo avait fait une vaste enquête sur la question du soutien à domicile. Puis déjà, notre diagnostic était que le SAD était malade. Ça répondait pas à l'ensemble des besoins. Mm-hmm. Mais depuis 2014, ça se dégrade sans arrêt. C'est pire encore qu'en 2011. C'est même très inquiétant. Puis, notamment, comme vous dites en début de d'émission, c'est le caractère gratuit qui est re-questionné.
Ah oui, hein?
Les personnes se font évaluer pour recevoir X heures de soutien à domicile et ils ne sont pas respectés. Et en plus, à défaut d'avoir un nombre d'heures suffisant de soutien à domicile, les personnes en situation de handicap doivent recourir aux proches aidants ou aux aidants naturels, que moi j'appelle aidants forcés.
Oui, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas le choix, ces gens-là. Ils sont épuisés aussi.
Et c'est ça, ça fait que nos membres à Execo, ce sont des personnes en situation de handicap, bien, ils ont réalisé une vidéo. En fait, ils ont été dans des lieux publics et ils ont fait des vox pop.
Ah oui!
Ils ont posé des questions aux citoyens. C'était des situations qui sont vécues par les personnes elles-mêmes en situation de handicap.
Donc, c'est le moyen que vous avez trouvé pour dénoncer cette situation-là. Donc, ces vox pop-là sont lancés tout prochainement?
Oui, sont lancés le 14, aujourd'hui même, en fait. Et c'est ça, c'est des situations où les personnes se font poser des questions genre: est-ce que penseriez-vous d'avoir 28 culottes d'incontinence par mois quand il y a 30 jours dans le mois?
Ah oui, c'est assez logique. Puis ça arrive pour vrai.
Oui, ça arrive pour vrai. On a une membre chez nous qui fait sa situation. Mm-hmm. Ou bien donc, la personne, on a un autre membre, s'est vu couper des heures de soutien à domicile parce que le CDC évaluait que son fils, ado, est en mesure d'agir comme proche aidant.
Ah oui, donc ça légitimait qu'on coupe tous ses services à ce moment-là?
Ah oui, bien, une partie des heures.
Une partie, OK.
Parce que à ce moment-là, on disait que le fils pouvait supplier. Mm. Ou c'est ça, puis de voir aussi qu'on impose tellement de tâches à la préposée pour le temps qui est nettement insuffisant. Ça fait que les préposés, soit qu'elles font tout rapidement, ce n'est pas bien fait, ou ne font qu'une partie. Finalement, la personne en situation de handicap, ses besoins ne sont pas comblés.
Donc, c'est le constat que vous faites, c'est ce dont vous témoignez via les Vox Pop, mais j'ai entendu dire aussi que vous avez décidé de transmettre une boîte un peu spéciale à des décideurs et des médias. À quoi ça va ressembler?
En fait, on veut rendre tangible, il y a tous les symboles, on veut rendre tangible les effets au quotidien chez la personne. Mm-hmm. Et nous, c'est qu'on dit, c'est une boîte, c'est un kit SAD pour soutien à domicile. Et ce qu'on dit, c'est que la dignité n'est pas garantie avec cette boîte-là. Mm. Dans la boîte, on retrouve des nouilles séchées pour signifier, symboliser la coupe dans les repas à l'aide de la préparation de mon repas. Mmh. Une vieille chaussette pour symboliser la coupe dans le temps pour faire la lessive. Et quand tu es à faible revenu, tu ne peux pas non plus avoir du linge pour deux semaines.
Ben oui, c'est ça. C'est...
Comme je disais tantôt aussi...
Il ne faut pas oublier que les gens qui sont en situation de handicap sont majoritairement appauvris, même que plus de la moitié gagne 15 000 $ ou moins.
Effectivement.
Donc,
on parle de gens à faible revenu. Mm-hmm. Je parlais tantôt des clubs d'incontinence. Aussi, j'ai parlé de l'adolescent qui doit aider sa mère.
Ouais.
Une vieille débarbouillette aussi, qui symbolise comme quoi tu te laves 6 fois par semaine à la débarbouillette, donc rien qu'une douche par semaine.
Ouais. Oui, il y a même une des intervenantes, Framboise, ou comme elle aime bien être appelée, qui rappelle qu'elle a eu un bain par semaine, même en période de canicule.
Ah oui, c'est ça, c'est beau temps, mauvais temps. Mm-hmm. Et que tu portes des clubs d'incontinence, etc. Et pour finir le tout, il y a de la toile d'araignée pour symboliser comme quoi que la préposée n'a pas eu le temps nécessaire pour faire le ménage. Dans cette boîte-là, il y a également une clé USB qui reprend les meilleurs moments de nos Vox Pop.
Okay.
En fait, la réaction des gens, et les gens, en général, sont indignés de voir comment que les personnes en situation de handicap sont peu soutenues en matière du soutien à domicile.
Bien, c'est une campagne qui est très claire et... Vous dénoncez la situation de manière très illustrée, mais quelles sont les revendications d'Execo?
Bien, en fait, il y a trois. Il y a l'arrêt dans les coupures puis de la remise des heures qui ont été coupées particulièrement depuis 2014. Le refinancement du soutien à domicile à la hauteur de ce qu'il coûte pour héberger une personne en CHSLD, mm-hmm. puis octroyer le nombre d'heures réalistes nécessaires afin de faire des tâches là, convenablement.
Écoutez, peut-être qu'on n'a pas...
Selon les besoins évalués, là.
Oui, bien c'est ça, c'est évalué par des professionnels même.
Effectivement.
Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais j'ose quand même la question. C'est bizarre parce que d'un côté, le docteur Gaétan Barrette s'est époumoné en disant qu'il manquait d'argent à Ottawa, qu'on ne versait pas suffisamment d'argent via les transferts en santé. Et de l'autre côté, il a réduit plusieurs moyens d'aller chercher de l'argent. Comment vous réagissez à ce paradoxe-là?
Bien, c'est ça, comme il réduit. Ça fait que là, je me dis, entre autres, au niveau de la cotisation au fonds des services de santé aux entreprises, mm-hmm. il a réduit le taux d'effort de 2,7 à 2,5 sur une masse salariale en entreprise de plus de 5 millions. Ça fait que c'est beaucoup d'entreprises.
Bien, c'est la majorité même.
C'est ça. Mm-hmm. Et en plus, on voit même des annonces là, à la télé comme quoi qu'ils veulent enlever la taxe santé.
Bien, on est content d'une certaine manière quand même.
Oui, on est content, mais d'un autre côté, il dit, particulièrement pour le fonds là, aux entreprises, mm-hmm. d'un côté, il dit que le fédéral donne pas assez, mais lui-même se prive de fonds,
oui.
D'entrée d'argent pour bonifier du service.
Donc, c'est ça votre message. Et Marie Turcotte, où on retrouve toute cette information-là, autant les vidéos que plus d'informations sur la campagne?
Bien, moi, j'invite les gens à nous suivre sur YouTube.
Mm-hmm.
Execo pour une égalité sans détour.
Ça, c'est le nom de la chaîne YouTube, oui.
C'est ça, pour visionner nos vidéos. Puis d'aller, ne pas hésiter de nous suivre sur notre page Facebook ou sur notre site Internet qui est execo.net, E-X-A-E-Q-U-O.net.
Donc, je le répète, E-X-A-E-Q-O.net, c'est le rendez-vous pour avoir plus d'informations. Merci, Marie Turcotte.
Ben merci, M. Rasseur. Bye-bye.
Bye.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux chanter.
Avec nous, pour mieux comprendre les dessous des budgets qui s'en viennent, tant du gouvernement fédéral de Trudeau... Trudeau? Je commence à déparler quand je parle du fédéral, ça va pas bien. Et aussi du gouvernement provincial de Couillard, Jacques Benoît, coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé. Bonjour, Jacques Benoît.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous voyez, je fais des entrées qui rient trop fort à chaque fois que je vous invite à l'émission.
Ben, il faut continuer à m'inviter, vous allez vous habituer.
Ben voilà, c'est pas juste que je m'habitue. En fait, faut vous le sachiez, Jacques Benoît, qui est avec nous, est non seulement un formateur, un analyste excellent, mais il sait dérider. Faut le dire. Bon.
Oui.
Okay. Bon. On va dire ça comme ça. Donc, on vous invite aujourd'hui, non seulement pour parler du travail d'organisation communautaire que vous faites avec les syndicats et les groupes de défense de droits, mais aussi parce qu'on peut souvent vous lire. En effet, vous avez une chronique qui s'appelle « Mon œil » et qui a attiré notre attention. Donc, les deux derniers articles, ou presque, traitaient des budgets néolibéraux qui s'en viennent. J'aimerais ça que vous nous en disiez plus.
Ben, rapidement, on pourrait peut-être parler de... On va avoir un budget fédéral qui est prévu pour le 22 mars, le dépôt, le 22 mars.
Oui, voilà.
Donc, dans un peu plus qu'une semaine. Ce qui peut nous intéresser particulièrement au niveau de la santé, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, vendredi, avec l'annonce d'une entente fédérale provinciale de financement de la santé sur 10 ans.
Et c'est fort à propos, effectivement.
Oui. Le ministre de la Santé a déclaré toutes sortes de choses là-dedans. Je vais essayer d'être assez bref pour être capable d'aller au cœur de la chose. D'une part, L'entente est sur 10 ans. Hein? Ce qui avait été déterminé par les spécialistes et les connaisseurs dans la matière, c'est qu'il fallait que, pour maintenir les services, le niveau de services et de soins dans l'ensemble du Canada, il fallait que le financement du fédéral soit à hauteur de 5,3% d'augmentation par année. Ce que le gouvernement fédéral va donner, c'est à peu près entre 3 et 4 %. Donc...
Et ça fait longtemps qu'il donne seulement aussi peu, hein?
Effectivement, il faut voir que au départ du budget d'assurance hospitalisation et d'assurance maladie, dans les années 60, le gouvernement fédéral payait 50 %. des coûts que les provinces encouraient pour donner des soins et services. Ça a diminué au cours des années pour toutes sortes. Bon, les divers gouvernements qui se sont succédés ont fait diminuer cette proportion-là, c'est-à-dire jusqu'à 14 % à un moment donné, puis ça a remonté dans les années 2000 avec le gouvernement Chrétien, Martin, tout ça. Puis, là, on est à peu près à 23 % actuellement.
Sauf que, Jacques Benoît, je vous arrête deux instants. On ne va pas nécessairement aller dans le sens du docteur Gaétan Barrette, mais il y a quand même une insuffisance d'argent là, du fédéral, ce qui peut expliquer le manque d'argent au provincial.
C'est ça. C'est qu'il y a deux choses là-dedans. C'est que d'une part, le ministre Barrette a raison quand il dit que le fédéral ne donne pas assez d'argent pour financer le maintien des services. Il a raison là-dessus. Parce que, comme je viens de le dire, il devrait, pour être capable de maintenir les services, il faudrait qu'il donne une augmentation de 5,3 %. Il en donne une de peut-être 3, 3,5 % ou quelque chose comme. Donc, c'est clair que ça n'atteint pas le maintien des services. Cependant, ce que le ministre Barrette oublie de dire, c'est que son propre gouvernement à lui, dans les deux premiers budgets, le budget de l'État de 2014-2015 et de 2016-2017, dans ces deux premiers budgets, la première année, il a augmenté les budgets de 1,4 % et la deuxième année de 2,5 % Donc, bien en deçà du 5,3.
Mais alors, parce qu'il y avait, même sous Monique Jérôme Forget, là, il y avait du 5 %.
Ah, mais déjà sous Chavez, le ministre Bachand avait évalué qu'il fallait 5,6 % d'augmentation annuelle pour maintenir les services.
Voilà.
Mais il a affirmé ça en 2011, et en même temps qu'il affirmait ça en se basant sur les années précédentes, il annonçait une diminution de 3,9 % l'année suivante, puis à 2,5, etc. Donc, ils n'ont pas cessé de diminuer les augmentations depuis ce temps-là. Donc, ça veut dire que ce qu'ils ont mis comme augmentation budgétaire à chaque année ne couvrait pas le maintien des services. Ça signifie qu'il y a eu une baisse d'offres de services, une baisse dans la possibilité d'accès aux services. D'autres choses qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand le fédéral dit qu'il met 11 milliards et demi sur 10 ans dans la santé mentale et dans les services à domicile, le ministre dit « oui, on va investir nous autres aussi dans les services à domicile ». C'est pas tout de dire que tu vas investir dans des services à domicile. Quelles sortes de services vont être soutenus?
Ah, mais ça, c'est toute la question. Parce qu'effectivement, il y a eu des obligations qui ont été levées. En fait, la ministre Philpotte rendait le versement de cet argent-là conditionnel à ce qu'on réponde à ces deux priorités-là. Mais comme vous le dites, non seulement à cause de la symétrie, là, comme on dit, là, le gouvernement du Québec peut faire un petit peu ce qu'il veut avec l'argent, mais on ne sait pas à qui il va le donner vraiment.
On en a quand même un peu une idée, parce que voyez-vous, au début de l'automne, fin août, début septembre, le ministre Blandette avait annoncé 22,2 millions dans des soins à domicile. Quand on regardait le détail de ça, c'est pas compliqué, ça allait soit pour développer l'offre de services privés, soit pour développer l'offre de services en économie sociale, mais pas un sou n'était consacré aux services publics.
Donc, est-ce qu'on est en période de privatisation?
Ah, mais c'est exactement ça. Utiliser des agents publics pour développer l'offre de services privés et communautaires. Mais cette offre de services-là, c'est une offre de services que les gens, que les citoyennes et les citoyens qui sont en besoin vont devoir payer.
C'est ça.
Alors donc, ce n'est pas... On a beau dire qu'on met de l'argent dans des services à domicile, la question, c'est pas juste dans des services à domicile. Ça, c'est un secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qui dans ce secteur-là va offrir les services. Si vous mettez l'argent dans des services privés et dans des services d'économie sociale, ben ce sont des services payants. Conséquemment, la population n'a pas accès à des services publics.
Donc, en somme, on remet gravement en question le caractère gratuit, universel des soins de santé et surtout les soins à domicile qui s'adressent à des personnes vulnérables.
Absolument.
Bon. Donc, c'est le constat que vous avez tendance à malheureusement étoffer depuis plusieurs années. D'ailleurs, quand les gens vont vous lire sur mon œil, on va voir ces dessous presque cachés de nos gouvernements. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que vous me dites, vous utilisez aussi le défaut de ressources. On n'aura pas le temps d'entrer là-dedans, mais j'invite les gens à comprendre c'est quoi la machination. En une phrase, qu'est-ce que c'est le défaut de ressources?
Le défaut de ressources, c'est qu'il faut créer le manque de ressources. Si vous ne mettez pas l'argent nécessaire au maintien des services.
Oui.
Ça veut dire que les services nécessaires pour répondre aux besoins ne sont pas en place. S'il y a 10 personnes qui ont besoin de services, mais qu'il y a des services pour seulement 5, mm-hmm. ben, les 5 autres, qu'est-ce qui leur reste comme possibilité?
Ou encore, on divise le panier de services en 10. Donc, ça veut dire qu'on donne moins de services à tout le monde.
Soit qu'on donne moins de services à tout le monde, mm-hmm. soit qu'il y en a seulement 5 qui ont accès, puis les 5 autres, ben c'est, ils doivent soit payer au niveau du privé pour en obtenir, ou bien s'en passer. Souvent, ce que ça donne aussi, c'est une augmentation de la charge des aidants naturels.
Ben voilà,
les aidants naturels, ce sont des femmes.
C'est les femmes qui écopent. Écoutez, Jacques Benoît de la Coalition Solidarité Santé, on retrouve tout ça sur quel site web rapidement?
Je vous retrouve ça sur cssanté.com. Vous pouvez aller chercher www.cssanté, hein, Coalition Solidarité Santé. Vous allez retrouver différentes informations. Vous pouvez vous abonner à la chronique Mon œil.
En plus.
C'est gratuit. Vous pouvez vous abonner et recevoir la chronique à chaque semaine.
Merci beaucoup, Jacques Benoît. À très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir. Avec nous, celle qui énergise avec des espoirs paralympiques. Donc, j'ai nommé Émilie Bouchard-Labonté. Bonjour! Bonjour, Émilie Bouchard-Labonté. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Bon, très content que vous ayez finalement descendu la côte jusqu'à notre téléphone. Comment ça va?
Ça va très bien, merci vous.
Ben oui, il semble que Tokyo est l'année prochaine, mais il y a une escale à Pyeongchang avant.
Oui, Tokyo, les Jeux paralympiques de 2020, mais peut-être les Jeux paralympiques d'été, mais pourquoi pas une escale à Pyeongchang l'an prochain pour les Jeux paralympiques d'hiver.
C'est
le but de Cindy Ouellette, qu'on connaît bien en basket en fauteuil roulant, qui est co-capitaine de l'équipe canadienne, mais donc pour des Jeux d'été, 3 Jeux d'été à son actif. Mais pourquoi pas une pointe vers l'hiver en ski paranordique cette fois.
Ah, bon, ben donc elle change un peu de discipline. Est-ce que c'est très différent? oui, un peu.
c'est différent un peu parce qu'évidemment, elle n'est pas sur un fauteuil roulant, elle ne dribble pas du ballon,
oui.
Mais c'est quand même des mêmes particularités. Donc, comme c'est une athlète qui n'a pas de jambes, mm-hmm. elle ne peut pas faire du ski de fond comme nous, les athlètes debout, on pourrait en faire. Donc, elle est sur une espèce de luge qu'elle pousse avec des bâtons.
Okay.
Donc, trois épreuves dans sa catégorie, le 1 km, un 2.1. Un 2 km et un 5 km au dernier championnat canadien de l'Est. Elle a gagné 3 médailles d'or.
Ah oui.
Donc, c'est la raison pour laquelle elle espère, si ça l'interfère pas trop avec sa carrière en basket en fauteuil roulant, puisqu'elle fait encore du basket en fauteuil, elle vise les Jeux de Tokyo, mm-hmm. elle espère peut-être aller à Pyeongchang en ski paranordique.
Ah, donc vous avez... c'est très sympathique. Vous avez emprunté l'histoire de Cindy Ouellette pour nous faire comprendre là, qu'il y a des détours jusqu'à Tokyo. Mais donc... Pour revenir à Cindy Ouellette, qui effectivement peut à la fois participer à des Jeux d'hiver et des Jeux d'été, elle habite la Californie?
Oui, effectivement, puisque c'est une athlète qui est originaire de la ville de Québec à la base.
Okay.
Mais quand gravir les échelons en basket en fauteuil roulant, s'est fait offrir une bourse pour jouer dans une équipe en basket en fauteuil à l'Université de l'Alabama, où elle a fait ses études, un bac et une maîtrise. Et ensuite, elle poursuit au doctorat à l'Université Southern California. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est basée dans le sud des États-Unis, mais effectivement, elle représente toujours le Canada là, lorsqu'elle fait partie des événements.
Est-ce que c'est devenu la norme? On dirait que beaucoup des athlètes maintenant entreprennent vraiment des études universitaires super poussées. Est-ce que c'est parce qu'il y a une nécessité de dépassement à tous les niveaux ou…
Mais dans son cas, je crois bien qu'elle veut se garder occupée puisqu'elle pratique plusieurs sports puis elle poursuit dans ses études. Quand on a du succès généralement dans une discipline, ça peut aller dans d'autres disciplines aussi. Donc, tant au niveau scolaire, là, c'est le rendu au doctorat, c'est la même chose. Alors, en ingénierie biomédicale, il y a sûrement plusieurs recherches qui peuvent se poursuivre. Donc,
oui.
C'est dans cette branche-là qu'il est.
C'est ça, c'est pratiquement associé à la pratique du sport. Là. Ça pourrait l'être en tout cas.
Oui, on voit plusieurs athlètes des fois étudier en médecine en même temps que compétitionner. Je pense à des athlètes là, valides comme Frédéric Lambert en racquetball, qui est parmi les meilleures joueuses au monde en racquetball, mais qui poursuit des études en même temps en médecine. Donc c'est quand même assez commun de voir des athlètes qui cheminent autant dans des qui ont du succès autant dans le sport que dans les études.
Bon, alors retournons, si vous permettez, au basket en fauteuil. On doit surveiller le Canada hein, dans ce secteur-là.
Oui, basket en fauteuil roulant, en fait, ça a été une grande déception pour les athlètes canadiennes lors des derniers Jeux paralympiques à Rio. Elles arrivaient là comme à titre de championne du monde et elles n'ont même pas fait le podium, qui était leur objectif. Elles espéraient même gagner l'or et finalement, elles ont été éliminées en quart de finale à Rio. Alors, un nouveau cycle paralympique pour se reconstruire, pour reconstruire l'équipe. L'équipe canadienne, elle doit composer quand même avec plusieurs athlètes qui ont pris leur retraite.
Okay.
Cindy Ouellet, qui, elle, est encore co-capitaine de l'équipe nationale. Elle a décidé de poursuivre en pratiquant d'autres sports et en faisant peut-être une escale à Pyeongchang, comme on le disait, mais elle s'engage encore pour un autre 4 ans. Elle dit que le sport l'a tellement aidé, le basket en fauteuil roulant, sa carrière l'a beaucoup aidé, puis elle a envie de redonner aux jeunes, elle a envie de s'occuper de la relève avant à son tour d'exister l'équipe.
OK, donc on a quand même dans l'équipe maintenu cette leader qui va probablement reconstruire, refédérer les athlètes vers le basket en fauteuil.
Exactement. Il y a plusieurs autres athlètes québécoises sur l'équipe aussi. Hélène Allard, qui est une athlète aussi qui faisait partie de l'équipe nationale lorsque les filles ont gagné le championnat du monde en 2014,
n'a
pas été gardée pour l'équipe nationale cet été pour Rio, mais qui est de retour au sein de l'organisation maintenant.
Donc, c'est à surveiller. Merci beaucoup, Émilie Bouchard-Labonté de Sportcom. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
La semaine de la déficience intellectuelle et l'intégration sociale est lancée. Et pour en parler, une de ses principales organisatrices, la directrice générale de l'AQIS, l'Association québécoise pour l'intégration sociale, Annick Larose. Bonjour, Mme Larose.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
C'est un grand plaisir.
On a souvent l'occasion de se croiser. En fait, vous êtes quelqu'un quand même de très engagé. Il n'y a pas tant de gens que ça maintenant qui défend la déficience intellectuelle et ses droits à travers le Québec. Vous ne trouvez pas?
Oui, bien, c'est sûr que nous, on cherche toujours de plus en plus d'amis. Effectivement, ce n'est pas nécessairement, je vous dirais, une cause qui a vraiment... c'est pas la saveur du mois, je vous dirais.
C'est quand même 1% de la population.
Oui,
quand même.
C'est 1 à 2% de la population. C'est sûr que ça touche quand même. Et puis, il y a des gens qui ont la déficience intellectuelle et toutes les familles, les gens qui sont en périphérie. Donc, effectivement, ça touche quand même pas mal plus de monde qu'on pense.
Bien sûr.
C'est sûr que je vous dirais que ce sont pas des personnes qui prennent beaucoup la parole.
Ouais.
Donc c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai décidé dans ma vie d'en faire mon métier parce que je suis moi-même la mère d'une jeune femme qui a 21 ans, qui a une trisomie 21.
Ouais.
Et je trouve ça important qu'on en parle parce que c'est des enjeux qui ont un impact direct sur des familles.
Mmh.
Et je crois foncièrement que ces personnes-là ont leur raison d'être et ont leur...
Ils doivent avoir leur espace.
Pardon?
doivent avoir leur espace.
Oui, ouais. Ils doivent avoir leur espace. Ils cherchent à avoir leur place. Ils ne veulent pas voler la place de personne d'autre. Ils veulent seulement avoir la leur. Et également, moi, je crois que lorsqu'on soutient adéquatement une personne qui a une déficience intellectuelle, on peut lui permettre de développer son plein potentiel. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que je crois et que j'espère pouvoir véhiculer comme message. Et puis que cet enthousiasme-là par rapport à ça, bien, que ça devienne contagieux.
Oui, et puis vous le portez bien.
Merci.
C'est souvent ça, d'ailleurs, des parents. Moi, ça m'impressionne. Si vous cherchez là, dans les groupes de bénévolat, dans les organisations citoyennes, les gens qui s'impliquent le plus, très souvent, vous allez retrouver des parents comme vous,
oui.
Qui avaient un enfant avec besoin particulier. J'ai vu ça à la fibrose kystique, les personnes qui ont déficience intellectuelle. Enfin, d'où vous vient cette énergie-là?
Bien, je vous dirais que ça vient... ça a l'air un peu cucu, mais c'est ça vient de l'amour. Hein?
Oui.
On porte ces enfants-là, on les aime. Bon, oui, ils sont venus un peu ébranler certaines certitudes dans nos vies. Moi, la mienne, c'est ce qu'elle a fait dans ma vie. Mais moi, je pense qu'on a deux choix quand il nous arrive quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je l'ai vu de cette manière-là, de manière très personnelle. Ou bien je m'écrasais, ou bien donc je me relevais les manches et je décidais d'y travailler. Et puis, bon, là, par un concours de circonstances, j'ai décidé que j'allais le faire de manière de plus en plus intensive, je vous dirais.
Oui.
Mais
vous avez choisi la manière collective. Donc, vous êtes arrivé à l'Association québécoise pour l'intégration sociale. Vous en êtes la directrice générale, Annick Larose. Donc, parlez-nous de cet organisme-là d'abord.
Oui, nous, la CIS, nous sommes une fédération qui regroupons plus de 80 associations partout au Québec.
Ah
oui. On a un mandat de représentation de la déficience intellectuelle. Donc, je peux vous donner un exemple. Si on fait une politique en particulier qui va toucher les personnes handicapées, bon, mais à ce moment-là, tout ce qui touche la déficience intellectuelle, la CIS va devenir... être l'interlocuteur principal. La même chose, nous, on est un peu les chiens de garde, je vous dirais, là, pour voir, un autre exemple, on travaille présentement sur un projet de loi sur la maltraitance. Des aînés, des personnes vulnérables, on déplore, nous, qu'on parle très, très peu des gens qui ont une déficience intellectuelle, donc il faut ramener toujours ça. Là.
C'est vrai qu'on a tendance, surtout quand on parle de maltraitance, de penser aux personnes aînées. Bon, j'ai rien contre ça, c'est important.
Pas du tout. Oui,
mais les personnes qui ont une déficience intellectuelle, je pense entre autres en transport, dans certains domaines, il y a eu beaucoup de cas qui ont été signalés d'agressions, d'abus, etc. En tout cas, il faut s'y pencher.
Oui, puis on a beaucoup travaillé à la CIS par rapport justement à cette situation-là, parce qu'on sait que 4 femmes sur 5 qui ont une déficience intellectuelle va vivre à un moment donné de sa vie, une situation de violence ou d'abus sexuel, un homme sur 3. Donc, c'est des statistiques qui sont assez importantes et on doit s'y intéresser. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Donc, c'est bon de lever les tabous autour de ça, de pouvoir en parler et puis de mettre en place. Nous, on est un peu inquiets à la CIS présentement avec la dispensation des services qui sont offerts en déficience intellectuelle.
On n'écoute plus assez les gens, qu'on me dit.
Ben, c'est pas juste qu'on les écoute plus, c'est qu'on leur donne plus de service. Carrément. Donc, on travaille par épisode de service. C'est comme ça un peu, c'est une nouvelle philosophie qui n'est pas du tout basée sur les meilleures pratiques au niveau clinique, là, pas du tout. Mais ça doit être une idée d'un gestionnaire à un moment donné qui a trouvé pour sauver un peu des sous. Donc, on va éteindre des feux et on va régler des situations qui vont souvent les troubles de comportement et ainsi de suite qui vont être résultés plutôt que de travailler en amont et d'avoir ce qu'on préconise, d'avoir un soutien en continu justement pour s'assurer que la personne dès le début, là, premièrement qu'elle soit stimulée au maximum et qu'aujourd'hui les parents attendent des années pour pouvoir avoir des services en stimulation, ce qui est un non-sens, c'est une aberration, c'est un scandale. Moi, je regarde ma fille qui va avoir 22 ans, à 2 mois, on avait commencé à faire la stimulation précoce. Pour ces parents-là, c'est insupportable. La même chose au niveau de toute leur vie, qu'ils puissent avoir des services de qualité et qu'on puisse les soutenir. Et au final, c'est quelque chose qui va coûter beaucoup moins cher pour la société que de régler des problèmes de comportement qui viennent souvent d'un abandon là, de ces familles-là, puis un désespoir qui s'installe. Puis la même chose, après 21 ans, on en a entendu parler beaucoup, hein. Le trou qu'il y a après 21 ans, il existe, c'est pas juste une vue de l'esprit.
Mais
je
donc,
pense qu'il faut s'y intéresser.
Effectivement, ça, c'est un autre dossier super important. Qu'arrive-t-il après là, cette période dite des jeunes? Là?
Oui,
mais
très,
on ne pourra pas lancer tout de suite cette grande discussion-là parce que on sent et on sait, on vous entend avec toute l'énergie que vous déployez, qu'il y a une nécessité de faire quelque chose pour mieux faire comprendre la déficience intellectuelle. Donc, la semaine de la déficience intellectuelle,
oui.
Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi cette semaine?
Bien, c'est une semaine de sensibilisation, de sensibilisation générale à la population pour, avec sous le thème comme on se ressemble, pour
ouais.
On met l'accent justement sur les similitudes, sur les points qui nous... donc, une personne qui a une déficience intellectuelle, c'est un humain, comme
ouais.
vous et moi, qui veut avoir sa place, qui veut pouvoir aller à l'école, qui veut pouvoir avoir des amis, avoir des loisirs.
J'ai un secret à dire aux gens, en plus, qui ont même des droits.
Qui ont des droits, effectivement, et qui veulent travailler, qui veulent être utiles dans la société.
Ouais.
Donc il faut leur faire une place, il faut trouver des façons adaptées des choses et surtout s'assurer justement de respecter leurs droits, ce qui est fondamental. Là.
Donc, votre thème central, ce qu'on a ensemble. Rappelez-moi le titre exact.
Comme on se ressemble.
Comme on se ressemble.
C'est notre slogan.
Comme on se ressemble. C'est excellent. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme activité?
Alors, il y a différentes activités. Les gens peuvent aller sur notre site déficienceintellectuelle.org où vous avez un onglet Semaine québécoise. Et là, vous allez voir dans toutes les régions, nos associations là, se creusent la tête là, pendant toute l'année pour faire toutes sortes d'activités. On a fait le lancement de la Semaine québécoise la semaine passée dans le cadre de l'exposition D'un œil différent qui a lieu à l'Écomusée du Fiermont,
ben
là,
oui.
qui se poursuit là, toute la semaine. Donc, il y a toutes sortes d'activités qui ont lieu et de conférences de toutes sortes là, justement pour amener les gens à
voir les choses d'un œil différent tout
oui.
en voyant les ressemblances.
Oui, tout à fait. Rentrer en communication aussi avec une personne qui a une déficience intellectuelle, ça prend pas des connaissances particulières, hein, c'est juste quelques qualités humaines que ça prend.
Puis d'écoute aussi?
Oui, d'écoute. Peut-être, moi je donne toujours l'exemple, c'est qu'on est toujours un peu, on est tous sur les autoroutes de performance. C'est sûr qu'une personne qui a une déficience intellectuelle, ça nous oblige à prendre des chemins de traverse et des chemins qui sont un peu plus de campagne, je vous dirais.
Mm-hmm.
Mais ça vaut la peine de faire ce détour-là parce que le paysage est magnifique.
C'est vraiment une très, très belle métaphore, mais en fait, il faut simplement présenter ces personnes qui ont des différences intellectuelles, disons, comme des gens qui ont une perspective nouvelle à nous faire découvrir. C'est peut-être votre message final de ce
oui,
que j'entends.
Oui, puis de croire au potentiel de ces personnes-là. C'est
ouais.
sûr que le spectre est très large, hein, mais voyez, dans on parle de 1 à 2 % de la population, mais de ce pourcentage-là, 80 % ont une déficience intellectuelle légère.
Mm-hmm.
Donc,
ils peuvent participer assez facilement.
Il y a quand même un très grand pourcentage de personnes et je pense qu'il faut miser sur le potentiel et de pas nécessairement juste s'arrêter à une représentation sociale de la personne qui a un handicap devant nous, là, mais qu'elle peut apporter. En tout cas, moi, je regarde, je donne toujours un peu comme exemple, ma fille dans ma vie, moi qui ai bardé de diplômes, celle qui m'aura appris le plus, c'est quelqu'un qui a une déficience intellectuelle.
Mais j'ai souvent entendu ça. Je dois vous
oui,
avouer,
oui, oui. Alors,
ici,
pour moi,
même à la station, il y a quelqu'un du personnel qui a un enfant qui a une déficience intellectuelle. Et ses trois autres enfants ont tous fait des études supérieures. Et elle avoue très candidement que c'est grâce à cet enfant-là que tout le monde a gagné en humanité.
Ah, moi, j'en reste convaincue. Et puis, c'est ça leur, si on peut dire, leur mission. Si on peut,
ouais.
on a chacun, hein, si on peut faire une petite différence dans la vie des gens, mais une personne qui a une déficience intellectuelle. Mais en même temps, je répète, c'est pas juste de l'angélisme ou de l'imaginer, c'est pas très fleur bleue nécessairement. Il faut quand même les soutenir aussi,
ouais.
ces personnes-là. Ça tombe pas du ciel, là.
Ça prend des ressources.
Oui, ça prend des. Oui, puis ça prend aussi. Faut soutenir les familles parce que.
C'est elle qui travaille. C'est elle. Ben, en fait, c'est pas juste. C'est pas il, là. C'est elle, souvent, qui travaille.
Oui, oui.
Effectivement, vous avez raison de le dire, surtout qu'on approche d'un budget provincial.
Oui.
J'espère que ça sera entendu. Mais d'ici là, on sensibilise et on peut avoir plus d'informations sur déficience.
Intellectuelle.org. Et puis, je voulais aussi attirer votre attention également que nous sommes soutenus par notre fondation. Le support.
Ah.
Donc, c'est important. Si les gens veulent aider la déficience intellectuelle, soit par des dons de vêtements, là, il y a des cloches là, avec un cintre, il faut faire attention là, de mettre ça dans la bonne boîte, ou également par des dons monétaires sur le site de la fondation Le Support, qui c'est lesupport.ca. C'est très simple et puis ça peut faire une grande différence.
Alors, on est content de savoir à quoi servent ces cloches qui amassent les vêtements de la fondation.
Les vêtements sont vendus
support.
Et l'argent revient aux organismes en déficience intellectuelle.
Très bien.
Et c'est la fondation supporte également la CIS. Et c'est nous qui l'avons créée il y a 30 ans.
Bon. Ben écoutez, merci infiniment.
Ça me fait plaisir.
Je vous rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur votre magnifique semaine. Annick Larose, directrice générale de l'Association québécoise pour l'intégration sociale. Merci.
Merci. Bonne journée.
Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus tu m'aimes, plus je t'aime. Plus j'aime t'embrasser.
La force du nombre. C'est un peu ce que je souhaite faire aujourd'hui avec ce petit segment. C'est une capsule qui s'intéresse au monde derrière les chiffres. Et aujourd'hui, c'est le soutien à domicile. Ce sont ces chiffres qui doivent nous intéresser puisque bientôt il y aura un budget et il y a aussi des campagnes de dénonciation pour davantage de soutien à domicile. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le soutien à domicile, ce sont des services que les gens peuvent recevoir et qui leur permettent de rester le plus longtemps possible à la maison. Le soutien à domicile, c'est de plus en plus de monde. Il y a environ 40 % de plus de demandes en soutien à domicile dans les 5 dernières années. Aussi, les restrictions budgétaires ont été extrêmement importantes durant ces dernières années. Et même que chacun des actes posés en soutien à domicile, et là, il y a toutes sortes d'exemples, que ce soit de vous aider à préparer les repas, que ce soit le lever, la douche, etc. Donc, chacun de ces actes ont diminué en minutes. Depuis les 5 dernières années, on accorde 11 minutes de moins à chaque acte. Qu'est-ce que ça fait? Parce que les statistiques, c'est bien beau, mais derrière, il y a du monde. ce que ça fait, c'est que les personnes ont moins de services de qualité. Les gens qui les donnent sont de plus en plus épuisés. Faites le calcul. Si on a une augmentation de 40 % des demandes dans les 5 dernières années à Montréal, par exemple, et qu'on n'augmente pas au même niveau le budget, on est en situation de coupe. Et c'est pour ça qu'on voit tant de gens qui se font couper leurs services de soutien à domicile et qui ont peur d'être obligés d'aller en CHSLD. Pour la petite information, je vous rappelle qu'une place en CHSLD annuellement coûte 73 000 $. Le protecteur du citoyen rappelait que pour 73 000 $, on a beaucoup d'heures de soutien à domicile. La force du nombre, ça serait le fun qu'on s'en rappelle maintenant que le budget arrive. Avec nous, M. Rémi Mailloux, directeur général de La Ressource, un organisme d'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, M. Mailloux.
Bonjour.
Ben, merci beaucoup d'être là.
Ça fait plaisir.
On me dit que vous êtes un super collecteur de fonds et que la paralysie cérébrale, c'est pas un obstacle pour vous.
Effectivement, dans mon cas, je pense qu'on développe des talents. Et puis,
oui.
Dans mon cas, ben, c'est ça. Ça a l'air qu'avec une équipe, hein, ça se fait pas tout seul, mais j'ai quelques aptitudes là-dedans.
Donc, pas mal d'aptitudes, beaucoup de gens intéressants et impliqués autour de soi, puis ça, c'est ce qui fait que ça marche aussi bien, vos campagnes de levée de fonds.
Oui, bien, c'est sûr que quand la cause est bonne,
oui.
Quand la cause est bonne, c'est un instant. Quand la cause est bonne, puis que tu dis ce que tu fais, puis tu fais ce que tu dis, normalement, là, ça a des répercussions, puis faut vraiment que les gens croient en ce que tu prêches,
ouais.
Puis qu'ils voient des résultats aussi, hein, parce que
bien
c'est sûr.
Sûr
que si les résultats des campagnes de levée de fonds étaient en sorte qu'on n'aidait pas les personnes handicapées de la petite de Miscamingue et du Nord du Québec, je pense pas qu'on pourrait avoir, qu'on aurait eu après 20 ans, on vient de terminer un téléthon.
Ah, ben oui, justement. Ben oui, c'est ça que je voulais vous dire.
503 000, là.
Combien?
503 000.
503 000. Donc, ben, vous avez fondé le téléthon de La Ressource.
Oui.
Vous avez amassé 503 000 en combien de temps?
Ben, en 6 heures, mais...
En 6 heures?
C'est-à-dire que le Trizo couronne une quarantaine d'activités faites par des bénévoles.
Ah oui?
Puis ça accumule, puis ça... L'élément marquant, ben, c'est le Téléthon qu'on finit ça. Pourquoi qu'on fait un Téléthon? Ben, premièrement, pour marquer une journée spéciale dans la vie des personnes handicapées. Oui. Moi, là, quand les gens viennent au Téléthon, puis que je me promène à travers de notre région, puis que les gens qui m'interpellent, qui ont des handicaps, puis qui me disent « Rémi, c'est quand est-ce notre Téléthon? » Ça veut dire que pour eux, là, c'est comme Noël, hein? Puis c'est une journée qu'on constate que les personnes handicapées, l'intégration des personnes handicapées est importante, parce qu'il n'y a pas de larmes, hein? Il n'y a pas de larmes, moi, hein? Il n'y a pas rien, là.
C'est ça, c'est de l'espoir que vous... Votre cause, c'est de l'espoir.
Tout à fait. Puis quand on voit les gens progresser dans la vie, parce que durant notre Téléthon, on a vu des gens qu'on a aidés depuis 20 ans, on avait quelques témoignages depuis ce temps-là, puis on a vu l'évolution et l'aide que la ressource a apporté à ces gens-là à travers 20 ans. Donc, puis déjà, vois-tu, j'en avais un, entre autres, que la paralysie cérébrale, qui est 50 ans, assez lourdement handicapé. Puis lui, il disait dans son topo, notamment, il disait, ben moi, je pensais de mourir à 50 ans. Mm. Mais là, avec l'aide que la ressource me procure, puis avec de la vie, puis, oui. Tu sais, moi, j'ai plus de limite d'âge.
Écoutez, c'est heureux de cette histoire de réussite, ce témoignage qui vous a sûrement beaucoup ému, qui vous a rappelé à quel point c'est important ce que vous faites. Mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est la ressource?
La ressource, c'est un organisme communautaire qui vient en aide là, de façon tangible aux personnes handicapées qui... le mot est peut-être grand, qui pallie un peu à les programmes gouvernementaux, on colmate des brèches.
Ouais.
Qui fait en sorte que les personnes handicapées attendent moins longtemps pour avoir obtenu soit des équipements spécialisés ou des bourses d'études ou des...
Mais vous aidez justement les personnes dans ce contexte de coupure qui n'ont pas accès rapidement, facilement aux services, c'est ça?
Oui, mais faut faire attention à monsieur dans le sens que on n'est pas là pour remplacer les services gouvernementaux.
Bien sûr.
On collabore en étroite collaboration avec le réseau de la santé, qui est une prémisse importante pour bien gérer l'argent que les donateurs nous confient.
Écoutez, M. Mayou, très impressionnant. On continue de vous suivre. Il est possible, d'ailleurs, de vous soutenir en visitant laressource.org, c'est bien ça?
Oui.
Est-ce que d'autres moyens pour, quand on y croit à votre cause, pour vous soutenir?
Ben, c'est le moyen le plus facile.
Parfait.
C'est sûr que si vous êtes en région, ben, venez nous voir, organiser une activité.
Vous êtes situé où, à Val-d'Or?
On est à Rouyn.
À Rouyn, excusez.
On couvre la petite de Miscamin et l'Ordre du Québec au complet.
OK, merci beaucoup. Rémi Mayou est directeur général de La Ressource. Et merci beaucoup, M. Mayou.
Merci à vous. Merci à Canal M.
Avec plaisir. Donc, faut le surveiller parce que les téléthons, c'est pas toujours la meilleure méthode. Et lui, il fait mentir ça. Quelle efficacité, quel dévouement. Enfin, on est tous impressionnés à l'émission. Donc, continuez de surveiller laressource.org. Pour avoir plus d'informations sur les intervenantes et les organismes qui viennent ici, visitez la page de l'émission Accès libre, repérable à canalm.vusetvoix.com. N'oubliez pas, vusetvoix au pluriel. Donc aujourd'hui est avec nous Marie Turcotte, directrice générale d'Execo. Soutenez la campagne contre les coupes dans le soutien à domicile, c'est important. On veut tous vivre le plus longtemps possible à la maison. Pas très loin, il y avait Jacques Benoît aussi qui nous parle toujours de ses budgets et surtout de cette influence du néolibéralisme dans les décisions budgétaires. C'est pour ça qu'il y a des coupes-coupes. Émilie Bouchard, la bonté, merci de votre énergie et on va ensemble jusqu'à Tokyo voir Pyongyang. Et Annick Larose, la semaine de la déficience intellectuelle, faut pas oublier, c'est 1 à 2 % de la population qui doit être visible. Je prends le temps de remercier tout le monde aujourd'hui parce que ces groupes, tous les jours, tentent de faire avancer l'accessibilité et la défense de nos droits. Ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour eux. L'équipe, elle est essentielle, magnifique. Martin Forgue à la recherche, Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Et n'oubliez pas, sur notre site web, on retrouve toutes sortes de ressources. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il est possible de repérer par mots-clés toutes sortes d'émissions que vous ayez besoin d'infos sur les impôts, que vous soyez intéressé à comprendre les maladies rares ou encore que vous avez envie de vous faire soigner à défense de droit. Tout ça est là. Continuez de venir chez nous et n'oubliez pas, on va se retrouver de toute façon la semaine prochaine à Canalem, à l'émission Accès libre, parce que, tout simplement, ensemble, on va faire un véritable Accès libre.